bouillon de lecture. Bouillon de lecture, votre émission mensuelle destinée à vous faire découvrir un livre, à vous le faire aimer pour vous donner éventuellement envie de le lire à votre tour. Et ce, tranquillement installé chez vous en écoutant la lecture d'extraits choisis par Hervé ou Catherine. Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et notre émission sera un peu particulière, non pas qu'elle soit enregistrée en public comme nous l'avions fait le mois dernier, mais parce que nous accueillons Anouk. Bonjour Anouk.
Bonjour.
Voilà, Anouk, élève de 3e. Et pas n'importe quel élève, si je puis me permettre, puisque Anouk est passionnée de lecture et Anouk est autrice d'un blog qui s'appelle
Bulle de livre.
Bulle de livre. Donc bonjour à toi Anouk. Alors nous aurons l'occasion de reparler avec toi tout à l'heure. On va commencer par la lecture. Je me tourne vers les deux acolytes habituels, Hervé et Catherine. Et je ne sais pas encore qui va me répondre. Quel est le roman que vous présentez aujourd'hui?
Plouf, plouf.
Plouf, plouf. Eh bien, c'est moi qui vais causer. Le roman dont on va lire des extraits aujourd'hui s'appelle « Trois » de Valérie Perrin. C'est un livre qui est paru aux éditions Albin Michel en 2021. Alors, pour rappel... Valérie Perrin est l'autrice d'un livre devenu best-seller en 2019 et qui s'appelait, Anouk ?
Changer l'eau des fleurs.
Changer l'eau des fleurs. Et livre dont nous avons déjà lu des extraits le mois dernier quand nous étions à la bibliothèque de Vineuil.
Exact, ça faisait partie des coups de cœur du comité de lecture.
Ça faisait partie des trois coups de cœur de la bibliothèque, exactement. Et à mon avis, trois pourraient arriver également au top 10 des ventes de livres.
C'est le Nostradamus de la critique littéraire, je crois.
Oui.
Bon, est-ce que je peux lire la quatrième de couverture? Ça sera peut-être plus clair.
Allez, vas-y.
Alors,
je suis pas clair.
1986, Adrien, Étienne et Nina se rencontrent en CM2. Très vite, ils deviennent fusionnels et une promesse les unit, quitter leur province pour vivre à Paris et ne jamais se séparer. 2017, une voiture est découverte au fond d'un lac dans le hameau où ils ont grandi. Virginie, journaliste au passé énigmatique, couvre l'événement. Peu à peu, elle dévoile les liens extraordinaires qui unissent ces trois amis d'enfance. Que sont-ils devenus? Quel rapport entre cette épave et leur histoire d'amitié?
Je reprends la parole.
Oui.
C'est donc un roman foisonnant qui, effectivement, se déroule sur deux périodes. Une qui commence en 1986, alors que les enfants sont
des enfants.
Petits, et sont des enfants, ils sont à l'école primaire. Hein, et qui, petit à petit, cette période-là va avancer dans le temps, puisqu'on arrivera vers les années 90, puis 2000. Alors que la deuxième période se déroule en 2017 et qui, elle, au contraire, va se figer comme une sorte d'aboutissement. L'année 2017 est une sorte d'aboutissement au début de leur vie en 1986. Curieusement, aujourd'hui, on ne dévoile jamais la fin d'un livre. Hein, ça, c'est la règle. Et pourtant, je vais commencer par l'année 2017. Donc... par la fin, pourriez-vous me dire.
Donc, tu vas divulgâcher.
Mais pas du tout. Il y a du 2017 tout au long du livre.
Il y a du 2017 tout au long du livre. Exactement. C'est pas du tout la fin que je vais lire. C'est le début de la fin, à la rigueur. Et ce début de la fin commence par une lettre. Une lettre rédigée par l'un des trois acolytes, des trois copains. C'est Étienne. Je rappelle qu'il y avait Adrien, Nina et Étienne.
Pourquoi tu m'appelles, Étienne ?
J'ai écrit une lettre pour ma femme. Je ne suis pas copain avec les accords, les formules, les envolées lyriques, tout ça. Je peux te l'envoyer par mail ? Comme tu es balèze en français, tu peux me l'arranger ?
Je ne connais pas ta femme.
Tu n'as pas besoin de la connaître pour savoir ce que j'ai à lui dire, parce que tu me connais, moi.
Je t'ai connu il y a longtemps.
Tu peux m'aider, s'il te plaît ?
Ok.
Je reçois la lettre envoyée dans la boîte mail de Louise. Je la lui renvoie quelques minutes plus tard.
Étienne, j'ai corrigé deux fautes d'orthographe. Pour le reste, je n'ai rien touché, parce que les mots appartiennent à ceux qui les écrivent. Surtout ceux-là.
Marie Castille, je suis partie, tu as le droit de m'en vouloir. Peut-être me jugeras-tu égoïste, dégueulasse, ignoble, et c'est ton droit, mais c'est mon choix. Il n'y a pas d'autre femme, je n'ai rencontré personne. Je suis malade. Louise t'expliquera, ne lui reproche rien, je lui ai interdit de parler. Je refuse aussi que Valentin et toi me voyiez souffrir comme une bête de labo, me dégrader. Je ne veux pas que votre dernière image de moi soit celle d'un grabataire. Tu sais que j'ai la haine des hôpitaux et que je suis fier comme Artaban. Tu me dis toujours, mon amour, tu es fier comme Artaban. Je suis donc à la fois trop fier et sans doute trop lâche pour crever sous vos yeux. Ne me cherche pas, je t'en supplie. Au début, je serai avec deux potes d'enfance qui vont m'accompagner vers le dernier voyage. Ne pas voir grandir notre fils et ne pas vieillir avec toi est une putain de douleur. Mais je m'incline. Tu sais que je ne crois pas en Dieu et que pour moi, c'est impensable d'être enfermé dans une boîte qu'un curé bénirait avant qu'elle soit portée par des mecs que je ne connais pas. Ou pire, par nos collègues. Je préfère me jeter à l'eau, prendre les devants. Et c'est ce que je vais faire, me jeter à l'eau quand je sentirai que c'est le moment. Je ne vais pas pleurer sur mon sort, je t'en supplie, ne porte jamais de noir en souvenir de moi. Mets ton pull, celui que j'aime bien, avec des losanges rouges. Achète-en plein. Claque notre pognon, ne sois pas ma veuve, rencontre d'autres types et amuse-toi. Oui, amuse-toi, brûle la chandelle par les deux bouts et profite du soleil, fais-le pour moi. Étienne.
Alors Hervé, pourquoi ce choix de commencer par la fin ?
Mais non, il n'écoute pas, il n'écoute pas. Je l'ai dit tout à l'heure, ça n'est pas la fin, ce n'est que le début.
C'est le début de la fin. Alors je reformule ma question, pourquoi choisir de commencer par le début de la fin ?
Parce que l'extrait que je viens de lire se situe d'ailleurs vers le milieu du livre et effectivement il démarre vers le début, c'est un endroit charnière du livre, donc c'est pour ça que j'ai choisi de le lire. Cette lecture, ces extraits que j'ai choisis, je vais les dérouler de façon linéaire en respectant l'ordre chronologique et je vous propose donc de poursuivre maintenant par le début, c'est-à-dire la rencontre de ces trois jeunes à l'école en 1986. Et comme nous sommes accompagnés par Anouk, je vous propose que ce soit elle qui lise l'extrait suivant.
Les trois se sont rencontrés 10 mois plus tôt, dans la cour de l'école primaire Pasteur, le jour de la rentrée en CM2. C'est l'âge où c'est le bordel, l'âge où les enfants ne se ressemblent plus. Grands et petits, puberté, pas puberté. Certains ont l'air d'avoir 14 ans, d'autres 8. Les deux classes de CM2 sont rassemblées dans la cour. Devant une 60aine d'élèves, l'institutrice, Madame Bléton, et l'instituteur, Monsieur Pi, font l'appel côte à côte. C'est le matin où l'on connaît les coups du hasard et les coups du sort, où l'on apprend à faire la différence. Chaque enfant prie en silence, même ceux qui n'ont jamais mis les pieds au catéchisme, pour que ce soit Madame Bléton qui l'appelle. Le maître a très mauvaise réputation. Des générations d'anciens élèves traumatisés ont raconté à leurs cadets. Un fiéfé salaud qui n'hésite pas à mettre des beignes, à soulever un enfant de terre en lui agrippant le col, ni à casser des chaises contre les murs lorsqu'il est en rogne. Et chaque année, il choisit un bouc émissaire et ne le lâche pas. Plutôt un mauvais élève. Alors il y a intérêt à travailler, sinon t'es mort. Madame Bléton, rangée de droite. Monsieur Pi, rangée de gauche. Ils font l'appel par ordre alphabétique. On devine des soupirs de soulagement discrets dans la rangée de droite. Quelque chose dans le port de tête qui remercie le ciel, les épaules qui se relâchent. Et des airs de condamnés à mort pour ceux qui rejoignent la rangée de gauche. Il y a un silence de plomb école Pasteur ce matin-là. Seules les voix des deux instituteurs résonnent sous le préau. Tour à tour, on appelle les élèves dont le nom commence par un A.
Adam, Eric.
Rangée de droite.
Antar, Sandrine.
Rangée de gauche.
Antunes, Flavio.
Rangée de droite.
Aubagne, Julie.
Rangée de gauche. Puis, ce sont les B.
Beau, Nina.
Rangée de gauche.
Beauclerc, Nadège.
Rangée de droite.
Beaulieu, Étienne.
Rangée de gauche.
Bisset, Aurélien.
Rangée de droite.
Bobin, Adrien.
Rangée de gauche. C'est ainsi que Nina Beau, Étienne Beaulieu et Adrien Bobin sont réunis un 3 septembre 1986. Comme les deux garçons semblent tétanisés, Nina leur attrape la main et les entraîne dans le rond devant Monsieur Pi. Étienne se laisse guider. Se laisser prendre la main par une fille, c'est la honte, mais il ne le réalise pas. C'est la double sentence. Il vient de perdre son copain, Aurélien Bisset, et il est chez Pi. À l'école Pasteur, du CP au CM1, tous les élèves voient cette dernière ligne droite avant le collège comme une épreuve. Tapi, la vache, c'est l'enfer chez lui. Ils attendent tous les trois la fin de l'appel, côte à côte. Étienne est beaucoup plus grand que les deux autres. Il a les traits fins, les cheveux blonds, la peau claire de l'enfant parfait dessinée sur les gravures. Ses yeux bleus piscine marquent ceux qui le croisent. Adrien est châtain foncé, les cheveux en bataille, des épis indomptables, très minces, la peau laiteuse, tellement timide qu'il semble caché derrière lui-même. Nina possède la grâce d'une biche. Sourcils et longs cils noirs qui encerclent des yeux d'ébène. Après 2 mois d'été, sa peau est brune. Derrière ses lunettes, Monsieur Pi observe ses futurs élèves, semble satisfait, sourit et leur demande de le suivre à l'intérieur de la classe où il se plante devant le tableau noir. Toujours ce silence effroyable. Chaque pas, chaque geste est gelé. Chacun choisit son bureau au hasard. Ceux qui se connaissent se collent deux par deux. Étienne pousse discrètement Adrien d'un coup de hanche pour se placer à côté de Nina. Adrien obtempère et se place derrière elle. Il la regarde, en oublie l'instituteur. Il se perd dans ses deux nattes, ses cheveux châtain foncé aux racines et blondis par le soleil aux pointes. Ses deux élastiques, sa raie au milieu, les boutons nacrés de sa robe rouge en velours, le duvet sur son cou. La beauté vue de dos. Elle sent son regard et se retourne furtivement pour lui balancer un sourire malicieux. Un sourire qui le rassure. Il a une amie, une copine. Il pourra rentrer chez lui et dire à sa mère « Je me suis fait une copine ». Il espère que Nina mange à la cantine comme lui.
Vous pouvez vous asseoir.
Monsieur Pi se présente, écrit son nom au tableau. La tension se relâche. Au fond, il a l'air plutôt gentil. Il sourit presque, explique les choses calmement. Il a peut-être changé. Ne dit-on pas que les grandes personnes peuvent se bonifier avec le temps ? La matinée passe vite. Distribution des livres scolaires à recouvrir le soir même et pas demain.
Je déteste la procrastination.
Lance Monsieur Pi en fouillant dans son cartable en cuir. Grand silence dubitatif dans la salle de classe.
Je vois que vous ne connaissez pas la signification de ce mot.
Monsieur Pi se lève, efface son nom à l'aide d'un tampon et écrit au tableau. Procrastination du verbe du premier groupe procrastiner qu'il souligne 3 fois.
C'est-à-dire remettre à demain ce que vous pouvez faire aujourd'hui.
Ensuite, il demande à chaque élève de se lever à tour de rôle, de décliner son nom et son prénom et de définir son point faible et son point fort. Personne ne bronche.
Oh là là, ça dort debout, il va falloir vous réveiller. Bien, on va y aller au hasard.
Il désigne la voisine d'Adrien, une blondinette très pâle. Elle se lève. Je m'appelle Caroline Dessaigne, mon point fort c'est la lecture, mon point faible c'est que j'ai le vertige. Caroline rougit un peu et se rassied.
Suivant, ton voisin.
Lance Pi. Adrien se lève, le rouge au front, les mains moites, l'horreur de prendre la parole devant les autres. Je m'appelle Adrien Bobin. Mon point fort, c'est la lecture aussi. Mon point faible, j'ai peur des serpents. Nina lève la main. Le professeur l'encourage d'un signe de la tête. Je m'appelle Nina Beau. Mon point fort, c'est le dessin. Mon point faible, l'asthme. C'est au tour d'Étienne de se lever.
Tu n'as pas levé la main !
Hurle Pi. Silence.
C'est bon, c'est le premier jour. En général, le premier jour, mon pied ne me démange pas encore. Les vacances l'ont fatigué. Tu te rassois. Si tu veux prendre la parole, tu lèves la main. Suivant.
Étienne se rassied aussitôt, des sueurs froides dans le dos. Ses mains tremblent. Il est midi. La cloche résonne dans toutes les classes. Personne n'ose bouger. Monsieur Pi demande aux élèves qui ne se sont pas encore présentés de terminer l'exercice. Étienne lève la main à plusieurs reprises pour prendre la parole, mais l'instituteur l'ignore jusqu'au moment où il les envoie tous déjeuner. Dès qu'ils quittent la classe, Étienne et Adrien attendent Nina devant la porte, comme pour reformer leur groupe. Quand elle les rejoint, Étienne est dépité. « Tout le monde s'est présenté sauf moi, gémit-il. »« Comment tu t'appelles déjà ?» demande Nina. « Étienne Beaulieu. Mon point fort, c'est le sport. Mon point faible, je sais pas, je suis plutôt bon en tout. » « T'as aucun défaut ?» demande Nina. « Je crois pas. »« T'as jamais peur de rien ?» s'étonne Adrien. « Non. Même dans la forêt, tout seul, la nuit. »« Je pense pas, je sais pas. Faudrait essayer. » Ils marchent côte à côte au pas de course. Ils ont 20 minutes de retard pour la cantine. Nina au milieu, Adrien sur sa droite, Étienne sur sa gauche.
À l'école où nous avons appris la BC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut tout le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe. Avant elle, nous étions tous des paresseux, des lèvres nés, des cancres, des crétins crasseux. En travaillant exclusivement que pour nous, les marchands de bonnets d'âne étaient sur les genoux, étaient sur les genoux. La maîtresse avait des méthodes à danser. Au premier de la classe, elle promit un baiser. Un baiser pour de bon, un baiser libertin. Un baiser sur la bouche, enfin bref, un patin, enfin bref, un patin. Au pupitre d'alors, quelque chose changea. L'école buissonnière eut plus jamais un chat. Et les pauvres marchands de bonnets d'âne crac connurent tout à coup la faillite, le crac, la faillite, le crac. Lorsque le proviseur, à la fin de l'année, nous lut les résultats, il fut bien étonné. La maîtresse, elle rougit comme un coquelicot, car nous étions tous pris d'excellence ex aequo, d'excellence ex écho. À la récréation, la bonne fée se mit en devoir de tenir ce qu'elle avait promis. Et comme elle embrassa 40 lauréats, jusqu'à une heure indue, la séance dura, la séance dura. Ce système, bien sûr, ne fut jamais admis par l'imbécile alors recteur d'académie. De l'école, en dépit de son beau palmarès, on chassa pour toujours notre chère maîtresse, notre chère maîtresse. Le cancre fit alors sa réapparition. Le forant thème est redevenu l'exception. À la fin de l'année suivante, quel fiasco! Nous étions tous derniers de la classe ex aequo, de la classe ex aequo. À l'école où nous avons appris la BC, la maîtresse avait des méthodes avancées. Comme il fut tout le temps bien éphémère, hélas, où cette bonne fée régna sur notre classe, régna sur notre classe.
Puisque nous avons entendu Anouk avec la lecture de cet extrait, On va maintenant essayer de te connaître un peu, Anouk. Dis-nous, alors, j'ai dit tout à l'heure que tu étais élève de 3e, c'est bien ça?
Oui, c'est ça.
Et que tu es passionnée de littérature à tel point que tu rédiges un blog, c'est bien ça?
Oui.
Raconte-nous un peu ton blog.
Du coup, j'adore lire depuis que je suis toute petite. Et puis, j'ai eu envie de partager cette passion un peu plus largement qu'avec ma famille, mes amis. Et donc, du coup, j'ai commencé mon blog qui s'appelle Bulle de Livre. Et, je tiens mon site depuis à peu près 2 ans. Et j'y parle de lecture, je pense que vous avez compris,
oui.
De mes avis sur les livres que je lis et que j'ai lus. Voilà.
Un blog, ça s'entretient, c'est des articles toutes les semaines?
Oui, à peu près.
Et donc, toutes les semaines, tu es capable de parler d'un livre nouveau?
Oui. Oui, oui.
Ce qui veut dire que tu en lis au moins un par semaine?
Oui, c'est ça. Après, je lis beaucoup de choses différentes, que ce soit des mangas, des BD, des romans, des classiques, du théâtre, voilà, des romans plutôt jeunesse, adulte. Donc, du coup, ça, c'est varié aussi.
Un petit peu de tout. Oui.
Et je crois que tu fais des podcasts aussi.
Voilà. Et depuis à peu près 5 mois, je fais un podcast aussi littéraire qui s'appelle Bulle de Livre, pareil. Et c'est comme ça que m'est venue l'idée de faire mon stage de 3e à Studio Zef.
Ah oui, faire de la radio, puisque... combien il dure?
Elle
il dure
est très forte, elle est capable de...
Il dure combien de temps tes podcasts? C'est quoi? C'est 15, c'est 30 minutes?
Oui, à peu près 15 minutes, voilà. En général.
Et on les écoute sur ton site aussi, ou tu les mets sur des réseaux sociaux?
C'est
ou...
sur les plateformes d'écoute, Deezer, Spotify, tout ça. Et puis sinon, il y a sur le site, sur mon blog aussi, c'est
sur le blog aussi.
Écoutable.
Très bien. Et donc ton blog, c'est tu as des bulles de livres,
c'est oui, ça? Oui, c'est ça.
Bulle de Livre. Ouais,
tu le feras le mettre sur le,
et
sur
oui, le site on le mettra de l'émission. Sur le site de l'émission, hein. Bien sûr. On mettra l'adresse.
J'ai pitié.
Ça fait plaisir de rencontrer des gens qui sont passionnés de lecture.
Bah oui.
N'est-ce pas?
Surtout dans une émission sur la lecture.
Surtout dans une
très fort, Hervé. Littéraire. T'es d'une pertinence. Ah. À chaque fois, ça me sidère.
Bien, revenons à notre livre. Je me tourne vers mes deux complices habituels. C'est quoi la suite? Catherine, Hervé, ne vous bousculez pas.
La suite, Hervé.
La suite, c'est le tourbillon de la vie, dans laquelle on va retrouver tous ses ingrédients. L'amitié, mais aussi la haine, les tricheries, les mariages, etc., etc. Je vous propose de commencer par la haine.
L'année scolaire 1986-1987 fut la seule où l'instituteur Antoine Py changea de bouc émissaire en cours d'année. De 1955 à 2001, à chaque rentrée des classes, il s'employa à deviner qui serait son souffre-douleur, un petit jeu dont il se délectait. Il le préparait déjà mentalement en faisant ses mots croisés au Sable d'Olonne où il se rendait chaque été. Serait-il blond, brun, roux, grand parce que redoublant ou fluet parce que trouillard? Un élève qu'il ne pourrait pas blairer dès le départ. Dès qu'il poserait son cul sur un des bancs de sa classe, dès qu'il prononcerait le mot « présent » et que sa voix le désobligerait comme une fourchette qui griffe le fond d'une assiette. Que des garçons. Le sexe faible ne l'intéresse pas. Et selon les fiches personnelles qu'il aurait lues, qu'il aurait décryptées pendant des heures. Comme il aimait déchiffrer les prénoms, les noms, les situations familiales de ses élèves, qu'il se délectait de toutes ces informations, exactement comme quand on se regarde depuis l'extérieur dans l'obscurité, ce qui se passe à l'intérieur d'une maison dont les fenêtres sont éclairées. Profession du père et de la mère, jamais il ne choisissait un élève dont les parents étaient cadres ou dans la fonction publique. C'est ce qui sauva Étienne Beaulieu le jour de la rentrée 86. Si Py n'avait pas lu sur sa fiche que ses parents étaient de hauts fonctionnaires, il l'aurait dérouillé toute l'année. Se lever et prendre la parole sans demander la permission, et puis quoi encore? Et jamais il ne touchait de près ou de loin à un Abdelkader, comme il adorait appeler les élèves de confession musulmane en présence de quelques amis triés sur le volet. D'autres instituteurs venant d'autres académies que la sienne rencontrés aux terrasses des cafés des Sables d'Olonne. Antoine Py n'avait pas d'amis à la Comelle. Il avait un rang et une certaine distance à respecter à cause de son métier. Une fois qu'il avait fait un premier tri en examinant la situation professionnelle des parents et leur nationalité, 3 jours lui suffisaient pour élire celui qu'il prendrait en grippe selon plusieurs critères invariables. L'élève paraissait complètement con, Un regard d'abruti, une lenteur dans la compréhension, un tic, une chemise froissée, un peu de gras autour du bide, des chaussures sales, une démarche mal assurée. Il pouvait aussi s'en prendre à celui qui paraissait trop sûr de lui, prétentieux, sourire en coin, l'œil qui frise, un petit rigolo. À cela, il adorait fermer le clapet. Il cherchait la faille la plus imperceptible de la classe pour s'y engouffrer. Il avait toujours enseigné en CM2, dernière classe avant que les élèves ne partent au collège, qu'il considérait comme la grande poubelle de l'éducation nationale. Il avait le sentiment de façonner des pierres précieuses pour qu'elles finissent dans un caniveau.
De pisser dans un violon.
Comme il disait le soir à sa femme en avalant sa soupe. En septembre 86, il jeta son dévolu sur Martin Delannoy, qui avait redoublé son CE1. Un problème de dyslexie. L'enfant voyait un orthophoniste. Pi prenait un malin plaisir, non pas à lui faire lire des textes à voix haute devant toute la classe, trop simple, pas assez pervers et surtout trop risqué, l'objectif étant de ne jamais attirer la suspicion des parents, de tous les parents. C'est que ses élèves parlaient et racontaient la vie de la classe devant leur assiette de raviolis. Pi envoyait plutôt Martin Delannoy au tableau pour résoudre des problèmes de maths insolubles pendant des matinées entières. Il éprouvait une jouissance à peine dissimulée derrière un faux sourire à observer le tremblement d'un élève, la pâleur de sa peau, la brillance des fines gouttelettes de sueur sur ses tempes et son front, ses larmes ravalées jusqu'à ce qu'une minuscule flaque s'écrase sur l'estrade en bois. Une goutte de sang translucide, celui du chagrin trop longtemps retenu. Et puis c'était des rivières sur les joues, comme un barrage qui cède. Et lui, Pi, de prendre une voix mielleuse et de dire
« Retourne à ta place, mon garçon. Tu resteras pendant la récréation, je t'expliquerai. »
Ah, il criait rarement, était d'une douceur crasse. Puis sans sommation parce qu'un élève bavardait, parce que sa femme lui avait tourné le dos la veille au soir, parce qu'on lui avait refusé une priorité le matin, il se précipitait d'un bond sur l'enfant et le soulevait de terre par le col. Mauvaise note, hors sujet, ricanement, bavardage, inattention, bâillement. Dans ces cas-là, les murs tremblaient et la voix de l'homme résonnait jusqu'aux cimes des grands marronniers plantés dans la cour. Aucun parent ne se plaignait car jamais un élève n'avait autant remonté sa moyenne qu'en passant dans la classe de M. Pi. On prononçait son nom avec délicatesse. On chuchotait « Il est chez M. Pi » avec un sourire et un contentement entendu. En fin d'année, on lui offrait de nombreux cadeaux qu'il recevait les yeux humides, prononçant inlassablement « Vous savez, je ne fais que mon travail ». Ses leçons étaient extrêmement précises et claires. Pi pouvait passer des heures à expliquer quelque chose jusqu'à ce que chaque tête de pipe finisse par comprendre, quitte à se répéter et à se répéter encore, quitte à faire recopier une leçon jusqu'à ce qu'elle soit assimilée une bonne fois pour toutes, quitte à donner une liste de devoirs longs comme deux bras qui occupaient des soirées et des dimanches entiers. Il était un instituteur remarquable. Alors il pouvait bien s'offrir un bouc émissaire pour décompresser. Même le directeur de l'établissement, M. Avril, fermait les yeux sur ses agissements peu orthodoxes au vu de ses résultats exceptionnels. L'année scolaire 86-87 débuta donc avec l'élève Martin Delannoy, jusqu'à ce jour de mars où la photo de classe fut distribuée juste avant la récréation. Une enveloppe par enfant avec le prix de la photo et ceux des portraits individuels déclinés sous forme de calendrier, marque-page et carte de vœux. Ce matin-là, Adrien Bobin et Martin Delannoy restèrent en retenue pour finir d'écrire une leçon sur les accords au pluriel. Pi se rendit dans la salle des instituteurs pour boire un café. Il revint dans sa classe vers 11h, quelques minutes avant de reprendre le cours. Il poussa la porte en silence. Il adorait arriver à pas de loup derrière un élève pour le faire sursauter. Il observa Martin Delannoy, le nez dans son cahier, la tête sur le côté, promenant sa langue sur ses lèvres en recopiant sa leçon. Pi allait lui faire une réflexion quant à sa façon de tenir son stylo-plume lorsqu'il fut attiré par Adrien Bobin. Le petit chevelu qui ne mouffetait jamais, qui travaillait bien. Le genre de gosse à qui on fout la paix en règle générale. Mais ce matin, il avait lambiné. Pi fut transpercé par une épée glacée quand son regard se posa sur lui. son cerveau affûté mit un quart de seconde pour analyser. Sa rage silencieuse, sa perversion passa de l'un à l'autre. On aurait cru voir un arc électrique passer de l'élève Delannoy assis à gauche de la salle à l'élève Bobin à l'extrême droite. Adrien leva la tête et ne vit que du noir dans le regard de Pi. Derrière ses lunettes, une folle tempête déferlait sur lui, menaçante et mortelle, de celle qui assassine. Adrien comprit aussitôt. Il baissa les yeux, se remit au travail, mais il était trop tard.
Don't sing if you want to live long. They have no use for your song. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. You'll never get a second chance. Plan all your moves in advance. Stay dead, stay dead, stay dead. Stay dead and out of this world. Run fast, don't stand in the sun. There's too much work to be done. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Don't ever talk with your eyes. Be sure that you compromise. You're dead, you're dead, you're dead. You're dead and out of this world. Hear the unloved weeping like rain. Guard your sleep from the sound of their pain. Long gone, long gone, long gone. Long gone and out of this world. When you smile and it tears your face, it's time for the inhuman race. You're down, you're down, you're down. You're down and out of this world. Now your hope and compassion is gone. You've sold out your dream to the world. Stay dead, stay dead, stay dead. You're dead and out of this world.
Bien, la description est un peu horrible de ce monsieur Pi là.
Pas sympathique. Hein.
Pas sympathique.
Pas sympathique.
J'ai même caricatural.
Caricatural, oui. On discutait pendant la musique et effectivement, on en est convenu de ça.
Même
ça
si c'est dans les années 86.
Justement, je pense que c'est un peu tardif.
C'est un peu tardif.
Voilà.
Ouais.
Je pense que tu aurais ça dans les années 60 encore. Où il y avait le maître 50, qui était capable 60. De tirer un élève par les cheveux jusque dans le couloir, ça ne choquait personne.
Et ça ne choquait personne, oui. Mais les années 80, non, c'est pas... Enfin,
pour
moi,
présenter
ça me semble
cet
pas
extrait tout à l'heure, je parlais de haine, là, elle n'apparaît pas vraiment, à part le dernier regard. Mais, amis auditeurs, lisez la suite quand même. La haine, elle va être bien présente dans le bouquin. Ça peut devenir violent.
Et la haine peut tuer.
Nous ne dirons que ça.
Je ne dis pas qu'elle va tuer.
Bien. Anouk, toi tu t'en fiches des instituteurs horribles, des affreux profs, parce que toi, tu ne les rencontres pas.
Je ne sais pas si je m'en fiche quand même, mais en tout cas ça me touche.
Ça ne te concerne ça pas, parce que toi tu fais l'enseignement à la maison,
c'est ça. Oui, depuis toujours. Mes parents voulaient me proposer une instruction plus respectueuse de mon rythme, que ce soit au niveau des apprentissages ou du sommeil, etc. Mais il voulait aussi me laisser le choix. Donc si j'avais voulu ou si à un moment je voulais aller à l'école, je pourrais. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qui me convient bien. Parce que je vois plein de monde, je fais des choses très différentes. J'ai du temps pour lire, faire de la musique, du théâtre, etc. Donc voilà.
Et tu as parlé de sommeil, ça veut dire que quand on ne va pas à l'école, on peut se lever tard.
Plus tard que quand on va à l'école, en tout cas. Ça dépend des jours, j'ai pas vraiment de rythme. Quoi,
mais... Le phénomène de l'école à la maison, c'est assez marginal. Il y a quand même peu d'élèves qui font l'école à la maison. Et la crainte que l'on a à chaque fois, c'est le manque de socialisation. C'est-à-dire que de ne pas avoir suffisamment de monde et pas avoir suffisamment d'amis et de ne pas se faire de connaissances parce qu'on n'est pas à l'école. Comment tu fais, toi, avec ça?
C'est vrai que les personnes avec qui j'en parle ont tendance à être peur. Mais en fait, je trouve pas du tout que... je vais très régulièrement dans des lieux communs, la bibliothèque, la piscine, le cinéma, l'école de musique. J'ai beaucoup d'activités avec des personnes de mon âge ou pas d'ailleurs.
En tout cas, on sent à ton aisance au micro que tu as l'habitude effectivement de rencontrer du monde et de parler. Bien, alors, on va revenir au livre. Hervé, c'est quoi la suite ?
Le roman est toujours partagé entre la première époque, donc à partir de 1986, et qui va avancer dans le temps. Et puis petit à petit, les trois compagnons, comme tout à chacun, vont devenir adultes. Et j'ai choisi après un dernier extrait qui se passe en 2017. En 2017, on avait dit au début de l'émission, c'est l'année charnière. Il y a une sorte de dénouement à l'ensemble. Et en 2017 apparaît un personnage inconnu. On a lu le roman avec Catherine, on en parlait pour préparer l'émission. Au début, effectivement, après on devine qui est cet inconnu.
Ça perturbe, oui.
Mais au début, ça perturbe, oui. Ouais. Et donc j'ai choisi cet extrait où justement l'inconnu apparaît. Ce personnage, donc, femme ou homme, on ne sait pas qui c'est au début. Écrit le livre lui-même, on passe donc au pronom personnel, je.
C'est une femme, c'est une inconnue. Vu son prénom, c'est une inconnue.
Bien, donc on va lire un extrait, et comme il y a beaucoup de personnages, on va tous lire un petit morceau. Là.
Ah oui, une vraie pièce de théâtre.
décembre 2017.
Qu'est-ce que tu deviens ?
Me demande Étienne, appuyé contre les grilles du refuge, comme si nous venions de nous croiser au coin d'une rue, par hasard. Plus loin, on entend les chiens aboyer au passage de Simone, Louise et Valentin. Je vis ici, je suis revenue.
Pourquoi ?
Parce que je connais. J'ai acheté une petite maison.
La vérité ?
Insiste-t-il. Je comprends pas où il veut en venir, comme s'il souhaitait que j'avoue quelque chose ou quelqu'un.
Nina, peut-être. Je...
À ce moment, Nina nous rejoint.
On peut aller chez toi ?
M'implore-t-elle. Oui ?
Je vais demander à Louise de ramener Valentin. J'ai que deux places dans ma voiture. Tu peux nous emmener dans la tienne ?
Oui. Je comprends aussitôt qu'elle a peur qu'Étienne lui file entre les doigts. Elle attend mon aide. Elle est nerveuse. Ne perd pas de temps. Elle est déjà prête à partir. Simone sort du refuge avec un chien dans les bras, suivi de Louise et de Valentin qui se tiennent par la main. Je me dis que je préférerais que ce soit eux qui montent dans ma voiture plutôt qu'Étienne et Nina. Nous sommes tous frigorifiés, l'extrémité des oreilles et le nez rougis. Nina observe Simone posée cannelée sur la banquette arrière de sa voiture. Adopter, c'est avoir un projet, tirer des plans sur la comète. Elle qui croyait que Simone n'avait qu'une seule perspective, mourir. Valentin la regarde aussi, envieux.
Quand je serai grand, j'aurai un chien.
Étienne sourit à son fils sans répondre. Il n'a même pas été foutu de lui offrir un kleps.
Tu viendras le chercher ici, j'espère.
Le taquine Nina pour détendre l'atmosphère.
Je sais pas, c'est dégueulasse d'en choisir un puis de laisser les autres.
Ne t'inquiète pas, je choisirai pour toi. Louise, on part avec Étienne. Tu peux prendre sa voiture ?
Résigné, Étienne tend ses clés à sa sœur.
Si je ne suis pas revenu à la maison, avant 13h, appelle la police. Avec ces deux-là, on ne sait jamais.
Plaisante-t-il sans sourire. Nina monte à l'arrière, lui à côté de moi. Je sens son parfum. Il baisse la vitre, allume une cigarette.
Je te rappelle que je suis asthmatique.
Étienne balance sa clope et remonte la vitre. Il pose sa nuque contre l'appui-tête et ferme les yeux. Nina saisit ses épaules. Il prend une de ses mains dans la sienne. Il ne rouvre les yeux que lorsqu'on se gare devant chez moi.
C'est là que tu crèches ?
Oui. À l'intérieur, nous sommes accueillis par Nicolas. Étienne observe mon bureau, mon ordinateur. Il fait le tour du rez-de-chaussée comme s'il voulait acheter ou perquisitionner.
Tu vis seul ?
Avec mon chat.
Tu vas rester ici ?
Oui.
Toujours ?
Oui, enfin, je crois. Qui veut un café ? Étienne s'assied sur le canapé. Il soulève Nicolas, le pose sur ses genoux pour jouer avec lui. Il a l'air défoncé. Ses yeux se ferment malgré lui comme s'il était shooté. Après avoir avalé un expresso, revenant à lui, Étienne s'adresse à Nina.
« Pourquoi tu m'as fait venir ici ?»«
Si tu pars, on part avec toi. »
Étienne n'a rien répondu quand Nina lui a dit « Si tu pars, on part avec toi. » Nicolas joue avec la fermeture éclair de sa parka, se lasse et se réfugie dans les bras de Nina. Étienne se lève, fait le tour du séjour, regarde ma vidéothèque, mes CD et vinyles, tombe sur quelques cassettes audio, dont une de trois, enregistrée en 1990 au collège.
T'as gardé ça ?
Oh, prends-la si tu veux, pour ton fils.
De nos jours, les mômes ne rêvent plus de fonctionner, de fonder un groupe de musique. Ils veulent juste d'être des youtubeurs célèbres.
C'est quoi un youtubeur ?
YouTube, c'est comme une chaîne de télé, mais sur le net. Des gens postent des vidéos que tout le monde regarde.
Des vidéos de quoi ?
Musique, humour, fringues, jeux vidéo. Purée, ça sent que t'es resté à la cornelle, toi.
Va te faire voir.
Je demande que ça, mais tu m'as kidnappé devant ton refuge.
Où comptes-tu aller pour mourir ?
Pas encore décidé. Je vous l'ai dit, je voudrais voir la mer. C'est pas très original comme générique de fin.
Il retourne s'asseoir près de Nina. Ils sont tous les deux côte à côte. Moi, debout, contre la porte de la cuisine, à quelques mètres, comme s'il me faisait peur.
Tu dis rien ?
Que veux-tu que je dise ? Louise t'a parlé. Elle en crève que tu refuses de te faire soigner.
Et toi, tu vas te faire soigner ?
Mon sang ne fait qu'un tour. Sors de chez moi, Étienne !
Je vous en supplie, arrêtez ça tout de suite !
Intervient Nina. Je respire, tente de calmer la tempête qui me traverse. Ce qu'Étienne provoque chez moi, je me déteste de me laisser encore toucher par ses mots.
On tourne en rond, là. Si c'est pour me demander de me faire opérer que vous m'avez fait venir ici, ça ne sert à rien.
Il se lève du canapé.
Vous pouvez me ramener chez moi ?
Nina éclate en sanglots. Étienne se rassied. Il serre sa tasse de café si fort entre ses mains qu'elles en blanchissent. Il déglutit plusieurs fois. Je fais quelques pas vers elle, lui touche l'épaule. Elle ne me repousse pas, n'en a plus la force. Nina, pourquoi tu as voulu que je vous amène chez moi ? Que veux-tu que je fasse ?
Je veux qu'on parte avec Étienne.
Arrive-t-elle à articuler. Je me tourne vers lui, toujours figée sur le canapé, une tête à faire peur. Tu veux qu'on t'accompagne, Étienne ?
Si c'est moi qui conduis.
De presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime, que je te prenne par la main pour t'emmener à Saint-Germain, t'offrir un autre café crème. Mais pourquoi faire du cinéma, fillette, allons, regarde-moi et vois les rites qui nous séparent. À quoi bon jouer la comédie du vieil amant qui rajeunit, toi-même ferais semblant d'y croire. Vraiment, de quoi aurions-nous l'air ? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire ? Elle au printemps, lui en hiver. Il suffirait de presque rien, pourtant personne, tu le sais bien, ne repasse par sa jeunesse. Ne sois pas stupide et comprends. Si j'avais comme toi 20 ans, je te couvrirais de promesses. Allons bon, voilà ton sourire qui tourne à l'eau et qui chavire. Je ne veux pas que tu sois triste. Imagine ta vie demain, tout à côté d'un clown en train de faire son dernier tour de piste. vraiment de quoi aurais-tu l'air? J'entends déjà les commentaires. Elle est jolie, comment peut-il encore lui plaire? Elle au printemps, lui en hiver. Que moi demain qui t'emmènera à Saint-Germain prendre le premier café crème. Il suffisait de presque rien, peut-être 10 années de moins, pour que je te dise je t'aime, je t'aime, je t'aime.
Rassurez-moi, cette femme, on sait qui c'est à la fin ?
Oui, oui, on peut dire que oui. Et même, on comprend assez vite, d'ailleurs, des auditeurs.
Devine,
on devine assez vite, oui, oui. Et des auditeurs, on peut être déjà deviné qui c'est. Mais pour tous les autres, tous les auditeurs qui n'auront pas deviné, ben, il vous faut lire ce livre.
Mais même ceux qui ont deviné peuvent lire le livre, Hervé.
Exactement.
Tout le monde peut lire, c'est même le but. Bien, Anouk, je me tourne vers toi, bon, pas pour te remercier d'avoir participé à notre émission. T'as des projets pour la suite, hein, sur tout ce qui est littérature, littérature de jeunesse, en fait, sur tes lectures. T'as des projets?
J'espère avoir le temps de continuer à alimenter mon podcast, mon blog, parce que c'est quelque chose que j'aime faire.
Question, tu fais ça depuis combien de temps, le blog?
Le blog, à peu près 2 ans.
À peu près 2 ans. Oui, c'est bien, c'est, comment dire, c'est suivi.
Voilà, si tiens, c'est pas un engouement d'un petit moment.
Oui, et puis du coup, j'envisage peut-être un métier dans le secteur du livre, mais j'ai pas décidé trop où, parce qu'il y a plein de domaines. Donc voilà, j'ai eu l'occasion de faire des stages en librairie, en bibliothèque, qui m'ont plu, mais peut-être ce sera en maison d'édition. J'ai encore le temps d'y réfléchir, je pense.
Mais le livre est un fil rouge.
Oui.
Hein. On le voit bien.
Tout à fait, on retrouvera Anouk dans une dizaine d'années, elle sera monitrice de parapente.
Ou elle aura pris la relève de notre émission.
Voilà, ou bergère dans les Pyrénées, on ne sait jamais. Hein.
Mais je ne pense pas.
Avec un livre.
Oui. Bon, en tout cas, merci beaucoup de m'avoir invité, ça m'a fait très plaisir.
Eh bien écoute, c'était un plaisir pour nous de t'accueillir. C'était vraiment un plaisir de rencontrer des gens passionnés de lecture. Et c'est encore, comment dire, encore mieux quand ils sont jeunes, parce qu'on se dit que ça va durer.
Il y a la relève.
Il y a la relève. Bien, je propose qu'on redonne le titre du livre que nous venons de lire aujourd'hui.
Alors, 3, le chiffre 3, hein, pas la ville. 3 de Valérie Perrin, paru aux éditions Albin Michel en 2021.
2021, c'est assez récent.
Oui, c'est récent.
Et maintenant, on guette la question suivante.
Et donc, la question habituelle. Est-ce que vous avez une petite idée du livre que vous lirez mois prochain ?
C'est une question à 1000 euros ou moins ? Parce que si c'est en dessous, je ne réponds pas.
En dessous ?
Ouais, bah alors, non, on ne sait pas.
Ah si !
Je sais que vous mentez parce que vous avez une petite idée quand même.
On a une petite idée quand même, mais le mois prochain, au début du mois, il y aura la journée des droits de la femme et nous essaierons de faire une émission particulière.
En lien avec la journée des femmes.
Exactement.
Bonsoir tout le monde. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir Anouk. Bonsoir Hervé et Catherine.
Bonsoir.
Et bonsoir.
Au mois prochain.